les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Aujourd'hui, cap sur la Martinique pour évoquer la vie d'Aimé Césaire, la Suisse pour un épisode politique effarant et un livre de philo sur les rencontres de nos vies. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Nous sommes en duplex de Fort-de-France aujourd'hui avec Marie-Josée Ali qui publie un livre d'entretien avec Aimé Césaire. Entre politique et poésie, un ouvrage intense et régénérant. L'auteur suisse Daniel Deroulet publie un nouveau roman qui s'inspire d'une page politique et historique de la Suisse. Une histoire incroyable que vous allez sans doute découvrir à travers la francophonie. Et puis nous recevrons le philosophe Charles Pépin pour un essai sur les rencontres que nous faisons dans notre vie. Et vous allez l'entendre, il faut savoir accueillir l'imprévu. Et voici les libraires qui vont nous accompagner tout au long de ce programme. Dominique Bressoux est libraire en Suisse dans la librairie Une Petite Prose à Boudry. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
On commence tout de suite avec une anecdote personnelle de votre vie de libraire.
Oui, alors écoutez, figurez-vous que l'autre jour, une dame arrive droit vers moi à la librairie et me demande le roman. Et évidemment, moi, je lui demande lequel, parce qu'il y en a quand même un paquet dans la librairie.
Oui.
Et elle, tout ce qu'elle me répond, c'est « Mais si, vous savez, le roman ». Et là, j'étais prête à lui demander la couverture, la couleur de la couverture, ou bien le prénom de l'auteur, enfin quelque chose. Et tout à coup, mes yeux sont tombés sur le livre qui était devant moi, et c'était le Dico Roman, avec un D, un dictionnaire roman français.
Ah.
Et c'était ça qu'elle voulait.
D'accord. Donc c'est compliqué. Hein. C'est vrai que vous faites un métier difficile, hein, parfois.
Très difficile.
Bon courage, tenez bon. Au Canada, c'est le retour de Katia Courteau, libraire à Montréal, dans la librairie Le Port de Tête. Bonjour Katia.
Bonjour Emmanuel.
Vous aussi, on vous demande des choses improbables.
Oh oui, ça arrive exactement comme Dominique.
C'est la définition hein, de la librairie. En Belgique, il y a Déborah Damblon, libraire à Bruxelles, dans la librairie La Licorne. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Vous aussi, je sais, vous avez plein d'histoires dans ce sens-là. Vous en avez raconté ici
plein.
Même. Plein. Bonjour Sophie Todescato.
Vous n'imaginez même pas.
Vous êtes libraire en France, vous, à Orléans, dans la librairie Les Temps Modernes. Merci à vous quatre d'être avec nous tout au long de cette émission. Vous interviendrez, bien sûr, avec nos invités.
Sans avoir l'air de nécessaire, lisons le calendrier lagunaire. Allez-vous donc.
Et bonjour Marie-Josée Ali.
Bonjour Emmanuel.
Vous connaissez cette musique de Jojoa et Lieutenant Nicholson?
Non, je connaissais pas, mais ça m'étonne pas que ça existe en tout cas.
Un hommage à Aimé Césaire. Vous êtes en duplex de Fort-de-France, Marie-Josée, dans les studios de Martinique la Première, que je salue chaleureusement. Il y a une équipe formidable dans cette radio. Je me souviens de notre émission au Salon du Livre de la Martinique en 2013 avec Martinique la Première. Voilà, vous leur passerez le bonjour de ma part. Vous publiez
ils entendent.
Un livre d'entretien avec Aimé Césaire, grand homme de lettres, poète et personnalité politique de la Martinique, dont on célèbre en ce mois d'avril le 10e anniversaire de son entrée au Panthéon. Comment était-il Aimé Césaire?
Il était timide,
ouais.
Il était humble, il avait des colères énervées. Et il était, je crois que c'était un grand solitaire. Et c'était quelqu'un pour qui on était obligé d'avoir une énorme tendresse. Même la journaliste carrée que j'essayais d'être, en tout cas, j'avais un gros faible.
J'avais
un gros faible.
Ouais, on le sent.
J'avais envie de le prendre dans ses bras. Je disais, s'il y a un homme que j'ai envie de prendre dans mes bras et à qui j'ai envie de donner le sein, c'est Aimé Césaire. Bon, c'est gentil, hein. C'est
carrément.
Gentil, mais...
À qui j'ai envie de donner le sein, oui. Quand même.
Ouais, c'est ça. C'est la tendresse, en fait. La tendresse.
Bon, vous l'avez interviewé entre 1983 et 2007. Vous l'avez un peu bousculé, un peu traqué, car vous dites qu'il n'aimait pas la radio et la télévision. C'était compliqué, les interviews avec lui.
C'était compliqué les interviews parce que simplement il avait été tellement mis à l'écart de la radio et de la télévision, en tout cas du service public, hein, c'était carrément, c'était persona non grata, il était Satan pour Paris. Donc il avait fini par être extrêmement méfiant et puis il aime pas ça parce que sa nature profonde c'est, je dirais que c'était un homme humble.
C'est
incroyable cette humilité qu'il pouvait avoir, il n'aimait que les autres. Je ne sais pas quelle qualité d'amour il avait pour lui-même, mais en tout cas il aimait beaucoup les autres et il ne se trouvait jamais suffisamment intéressant pour exister en tant que moi aimé Césaire. En revanche, il disait, j'ai tout dit dans mes écrits, donc arrêtez de m'interroger. J'ai tout dit dans mes écrits. Donc c'était pénible un peu parce que
parce parfois... que du coup vous êtes obligé de provoquer les choses. Alors vous racontez avoir osé faire venir une équipe de Martinique à Paris pour le rencontrer à l'Assemblée nationale sans avoir la certitude d'obtenir une interview.
Ah oui, non, ben c'était ça, hein, c'était, bon, je l'avais un peu piégé en Martinique lors d'une une conférence de presse où bon, j'étais allé le voir en me disant ça m'intéresse de faire un documentaire autour de vous et tout. Il m'avait dit oui, c'est pas dire non, hein, en fait, il aime beaucoup de gens. Et bon, je crois qu'il m'aimait bien comme il aime beaucoup de gens. Et il me dit, on va voir ça à Paris, à l'Assemblée nationale. Bon, ça sentait le, de toute façon, vous ne viendrez jamais à Paris, il faut quand même traverser, il faut quand même enjamber 8000 bornes d'océan. Et voilà, sans certitude aucune. Mais voilà, on était des militants de quelque chose qui nous paraissait comme une injustice fondamentale. On n'avait rien sur Césaire.
Et alors ça s'est fait quand même, parce que vous osez quelque chose d'incroyable. Vous lui donnez un carnet où il y a des écrits, vous écrivez des poèmes, des petits textes, et vous lui dites, lisez ça. Et après, vous déciderez si vous me donnerez une interview ou pas.
Oui, enfin, c'était n'importe quoi. C'est d'une arrogance et puis d'une insolence formidable. Mais je savais pas quoi faire. En fait, je me suis dit, si je retourne qu'entre les gens avec mon équipe en Martinique sans avoir une interview de Césaire, là, ça va mal le faire.
Au frais du contribuable, en plus.
Et au frais du contribuable. Et donc, je me suis dit quand même, en fait, je connais tout de lui parce que j'ai tout lu. Mais je ne sais pas qui je suis. Et c'est un homme de contact. C'est un homme tactile. C'est quelqu'un qui peut faire confiance ou pas. Et je me suis dit, je vais lui donner mes bafouilles, il va me dire, bon, ben la semaine prochaine, on se voit ici, on attendra une semaine, on attendra ce qu'il faut, mais non, pas du tout, il a tout lu.
Devant vous.
J'ai devant moi, et là, j'avais la honte totale. Je me suis dit, mais comment je peux faire ça? Donner comme ça, à lire mes bafouilles à cette plume-là, enfin, c'est, l'insolence a des limites quand même, et j'étais en train de me frapper psychologiquement, j'étais en train de me frapper, de me donner des claques et tout, et puis morte de honte, disparaissant sous la table de l'Assemblée nationale. Il a refermé le cahier, puis il m'a dit on commence quand.
Et oui, voilà. Et c'est parti comme ça.
Et c'est parti comme ça.
Aimé Césaire, député de la Martinique, élu en 1945. Écoutez bien, pendant 48 ans. Maire de Fort-de-France pendant 56 ans. Aimé Césaire était un peu le père de la nation, respecté de tous, même par ses opposants. Il aimait d'ailleurs utiliser ce terme de nation pour la Martinique. Concernant la négritude, concept forgé par Aimé Césaire, en réaction à l'oppression culturelle du système colonial français, il vous disait que c'était un point de départ, pas une fin en soi. Il la voulait comme une prise de conscience, cette négritude, et pas comme une division. C'est très important, ça.
C'est très important parce que finalement sa jeunesse s'est déroulée dans une Martinique notamment, parce que c'est de la Martinique que partent toutes ses idées et toute sa, je dirais, sa projection philosophique. C'est important, c'est vraiment le petit nord de la Martinique. Et il disait que finalement, il vivait dans un univers où les gens étaient dans l'idée d'une assimilation totale. C'est-à-dire qu'il faisait bon d'être français, mais il faisait bon même d'éclaircir le plus possible la peau qu'on pouvait avoir, parce que c'était bon d'être de plus en plus blanc. Enfin, il était en horreur totale de cette posture qu'avait la Martinique de sa jeunesse. Donc, je pense que ça, plus c'est sa rencontre avec Senghor, plus le surréalisme, beaucoup le surréalisme. On le dit pas assez, mais il m'a expliqué. Bon, le surréalisme, c'était descendre au fond de soi. Et quand je suis descendue au fond de moi, vraiment, ça m'intéressait. Fouiller, faire de l'archéologie de nous, de ce que nous sommes. Et plus je descendais, plus je savais, je sentais que j'allais trouver le nègre fondamentale. Voilà, c'est ça. Le surréalisme lui a donné cette idée de la négritude qui est pour lui un point de départ et non pas un horizon.
Oui. Alors, il rencontre Léopold Sédar Senghor, effectivement, à Louis-le-Grand, à Paris. Il arrive, il a 19 ans, hein, il est tout jeune, et puis il rencontre ce personnage-là. Il dit, j'aperçois un petit homme noir, en blouse grise, une ceinture de ficelle ou de corde autour des reins, au bout de laquelle pend un encrier, heureusement vide. Je le regarde, il me regarde, je marche à lui, ou c'est lui qui marche à moi. Et alors, il dit, alors bisous, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Aimé Césaire, je viens de la Martinique, et toi? Je suis Léopold Sédar Senghor et je viens de Dakar. Bisu, tu seras mon bisu. C'est génial.
Ouais, et c'était, ça a été le début d'une histoire d'amitié, mais totale. Ouais. Jusqu'au bout.
En France, en métropole à l'époque, il est brocardé pour ses idées. À l'Assemblée nationale, ses discours qui mettaient les ministres face à une réalité, la réalité d'une politique à deux vitesses avec l'outre-mer, scandalisent. Et effectivement, il bouscule l'État français. Voici un extrait d'une intervention d'Aimé Césaire à l'Assemblée nationale en 1982.
Une vérité toute simple, savoir qu'en matière de prestations sociales, vous refusez, l'on refuse l'égalité aux habitants de l'outre-mer. Je connais votre réponse. Querelle de mots, dites-vous. Égalité, parité. Les deux mots sont synonymes. Je ne sais pas s'ils sont synonymes, mais je sais, moi, et vous le savez autant que moi, qu'ils ne sont pas interchangeables. Tenez, monsieur le ministre, essayez de dire liberté, parité, fraternité. Chiche.
Marie-Josée Ali, ce chiche, c'est la clé de ces provocations qui sont justifiées. Évidemment qu'il doit aller jusque-là, puisque rien ne bouge. Chiche.
Oui, chiche. Mais c'était lui aussi. C'était cet humour un peu tout le temps. Et ce côté presque clownesque, il avait une manière de tourner les choses et de dire les choses qui faisait que les rires étaient de son côté. Les rires étaient de son côté. Il est important d'avoir les rires avec soi. Et ça, il savait faire ça. Il avait une gestuelle un peu parfois extravagante parce que, comme tous les timides, hein, il accentuait le trait, il levait les yeux au ciel, il levait les bras en l'air. Enfin, il avait... C'était important que sa parole soit accompagnée de l'image de lui en train de dire les choses. Parce qu'il les disait aussi avec les gestes. Il disait avec les mots et avec les gestes.
Il y a un côté très théâtral, en fait. Hein.
Complètement.
Qu'on a retrouvé après chez Bira, Christiane Taubira, qui l'aimait beaucoup d'ailleurs.
Qui l'aimait beaucoup et qui était proche de lui. Christiane faisait partie des gens qui pouvaient aller voir Césaire. On n'était pas nombreuses à pouvoir tout le temps avoir accès à Césaire quand on voulait, parce qu'il nous aimait bien. Enfin, il aimait beaucoup Christiane. Et je sais qu'il s'enfermait dans le bureau pendant parfois 1 heure, 2 heures, et puis ça rigolait. C'était ça, en fait.
Bon, on va aller voir du côté de nos libraires qui ont lu votre livre Entretien avec Aimé Césaire, Marie-Josée Ali. Cap sur le Canada avec Katia Courteau.
Oui, écoutez, Marie-Josée Ali, quel bonheur de retrouver Aimé Césaire grâce à vous. Vous nous donnez accès à une part intime de sa pensée et à travers l'homme politique que vous montrez, c'est l'homme qu'il était, cet homme entier que l'on saisit davantage. Au fil des pages, je vous avoue même avoir eu l'impression d'être à ses côtés. Je l'ai vu rire, entendu réfléchir et se donner pour son peuple. Merci pour ce privilège, vraiment.
C'est moi qui vous remercie, c'est vraiment un compliment parce que c'était ça l'idée. L'idée, c'était de partager l'homme que j'ai connu.
Dominique Bressot pour La Suisse, êtes-vous d'accord?
Ah oui, complètement. Moi, j'ai été complètement scotchée par ce livre. Parce que franchement, a priori, le titre « Entretien avec », moi, ça me vendait pas vraiment du rêve. Mais en fait, on le lit vraiment comme un roman à la très belle écriture. Et il n'y a pas une seule page que je n'ai relue 2 fois, même quand ce n'était pas des poèmes, pour cette plongée fascinante dans le cœur et l'âme d'un homme exceptionnel.
Voilà, vous avez séduit nos libraires, Marie-Josée.
Oh, je suis ravie.
Je vous sens émue à distance.
Oui, je suis émue parce que je pense à lui et je pense à... Vous savez, on a fait la sortie du livre en Martinique dans sa maison. Déjà, c'était un moment d'émotion extraordinaire. Et
qui
je
est
me
magnifique
suis rendu compte
d'ailleurs,
ce qui
cette
était...
maison.
Oui, c'était une petite maison modeste qui est à l'image même de Césaire. Et il y avait des gens, il y avait beaucoup de monde malgré le Covid. Tout le monde était masqué, bien sûr. Mais il y avait surtout... En fait, on s'est retrouvés non pas dans un truc didactique où j'expliquais, où je racontais. Tous ces gens sont des contemporains de Césaire. Nous sommes tous des contemporains de Césaire. Que vous soyez au Canada, en Belgique, en Suisse, à Paris, vous êtes des contemporains de Césaire et donc de ses idées. C'est une chance énorme. Et les gens qui étaient là, ils ont partagé des anecdotes. Et ça, c'était un moment, j'ai jamais vécu ça avec aucun bouquin. Enfin, en général, on a des questions, puis on fait des réponses, mais là, pas du tout.
Ah bah oui, mais c'était, là, le sujet est tellement fort,
c'était juste,
évidemment.
Voilà, oui. des questions, mais en même temps, voilà ce que j'ai vécu. Oui, oui. Ça confirme ça. Et c'était comme, en fait, c'était une veillée posthume. C'est ce qu'on fait dans les veillées chez nous. C'était une veillée posthume de Césaire, où on racontait le Césaire que chacun a connu. Et mis bout à bout, ça fait un vrai Aimé Césaire qu'on a envie de partager avec le reste du monde. Quoi.
Bon, vous avez réalisé un documentaire sur Aimé Césaire en 2007, peu avant sa mort. Vous êtes à un moment au bord de la mer, ce qui vous inspire poésie et rêverie au bord de l'eau. Il lit un poème et tout d'un coup, il vous embrasse.
Le temps vainqueur. Moi, j'aime le temps. Le temps est nocturne. Et quand l'espace galope, qui me livre, le temps revient, qui me délivre, le temps, le temps. Voilà.
Le temps qui passe.
Oui.
Est-ce qu'il vous fait mal? Est-ce que vous en avez marre?
Non. Nous vivons un siècle de douleur, donc de nostalgie, mais en même temps de confiance et d'espérance.
Bon, on a entendu le bisou, Marie-Josée Ali.
Oui, parce que juste avant la lecture du poème, bien sûr, j'avais posé la question de façon détournée, oui.
Temps.
De la mort,
oui.
De sa
oui,
mort,
le temps
de,
qui
sur
passe.
Le temps et tout. Et non seulement il a choisi d'ouvrir un de ses cahiers et de me lire un de ses poèmes, c'est-à-dire pas de réponse, il faisait ça assez souvent, mais en fait c'en était une. Et puis quand il a terminé, il a refermé le livre et il s'est mis, parce qu'il m'appelait ma petite Marie-Josée, mais j'ai quand même une tête de plus que lui, et il s'est mis sur la pointe des pieds et il m'a embrassé. Et j'avoue que j'étais scotchée, quoi. Je me suis dit, mais mon boulot de journaliste, franchement, la carte de presse, elle était quelque part au fond de mon sac et elle trépignait.
Mais bien sûr, oui, mais c'est pas grave, ça arrive.
Oui, ça arrive.
Ça nous est tous arrivé, ça, d'avoir comme ça une sorte de chaleur humaine qui dépasse tout, qui dépasse
tout
le métier et qui fait qu'à un moment, on se sent complètement envahi par l'émotion. Ce qui frappe dans ce livre, Marie-Josée Ali, c'est le rapport d'Aimé Césaire avec les Martiniquais. Il allait partout. Oui. Il aidait autant qu'il le pouvait et surtout, il recevait tout le monde. Il a vraiment mené une politique sociale la plus poussée possible, comme aucun homme politique ne l'a fait ailleurs.
D'abord, il était communiste au départ, mais avant sa fameuse lettre à Maurice Thorez, qui était le grand départ après 56, après la Yougoslavie et tout ça. Donc, il avait des idées sociales qui étaient très importantes. On se retrouve dans une Martinique qui est dans une misère noire parce que les usines à sucre ferment et tous les ouvriers agricoles se retrouvent sans boulot et afflue vers Fort-de-France. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ouvre Fort-de-France. Il dit, bon voilà, installez-vous là, dans des mangroves, dans des centres, dans des trucs invraisemblables. Et petit à petit, les gens ont commencé à construire leur maison, Alors lui, il met le tout à l'égout. Enfin, il y avait une politique sociale totale, assumée. Je veux dire que parfois, il y a eu des CRS, à l'époque, il y en avait encore en Martinique, qui débarquaient et qui viraient tout le monde, parce que c'est des terres qui appartiennent à l'État, c'est trop près de l'eau, etc. Donc, il y a eu quand même des choses assez violente autour de cette politique-là, qui était une politique vraiment sociale. Mais en plus de ça, il avait une manière d'être avec les hommes et les femmes. Il leur palpait le bras, il disait bah, « tu viens de quel endroit ?»« Ah oui, donc ton père était comme ça, ta mère, c'était
ça.
Ton grand-père. » Et il resituait comme ça l'arbre généalogique de chacun. Parfois, chacun apprenait des choses sur sa propre famille. Et c'était, en fait, je crois qu'il a eu une manière tellement originale de faire de la politique que ça mériterait qu'on s'en inspire.
Et Césaire est un homme fidèle. Son histoire est aussi liée à une rencontre avec celui qui sera son fidèle bras droit jusqu'au bout. Vous le citez, c'est Pierre Aliker. Ils feront leurs adieux ensemble en 2001 lorsque le dauphin Serge Letchimy prendra la mairie. Leur complicité est magnifique à ces deux-là.
Ah oui, c'était
et Aliker a une centaine d'années, c'est ça? Il a 100 ans quand il quitte
Aliker
la mairie.
Aliker est mort à 105, à 103 ou 104 ans.
Incroyable.
Donc il avait une centaine d'années, il était en pleine forme. Césaire me dit, mais je l'envie. Comment on peut être aussi en forme alors que moi j'ai des douleurs partout et tout. Lui, il est là, bon pied, bon œil, etc. Ouais. Mais c'était une amitié vraiment, je crois que Aliker était la personne qui lui disait les choses pour de bon, assez crûment, parce que c'était un esprit très cartésien. Et
c'était le seul qui pouvait tout lui dire,
Oui, parce que bon, les autres, il y avait tellement de respect que on l'écoutait plus qu'on on lui proposait. Et puis, si jamais il accrochait pas, ben on n'allait pas plus loin que ça. Et l'Iker, c'était son, comment dire, c'était son équilibre.
Ouais.
C'était son équilibre.
Bon, il y a tant de choses dans ce livre. On terminera ici avec son regard sur le racisme. Voici ce qu'Aimé Césaire disait. Il y a toujours eu une clientèle pour le racisme. Le racisme n'est pas une idéologie. Le racisme, c'est le réveil de l'animal que nous portons en nous. L'animal qui marque son territoire. Je crois que le racisme, c'est un recul de l'humanité, un retour à l'animalité. Mais je crois en une chose qui doit pouvoir aider à combattre le racisme, la découverte de l'autre. Connaître l'autre, respecter l'homme qui est dans l'autre, c'est ça l'important. Je pense donc que l'antidote, c'est la culture. Tout est dit.
Ben voilà.
Voilà. Tout on peut dit. Terminer là-dessus.
Tout est dit.
Merci beaucoup, Marie-Josée Ali.
Merci, Emmanuel, et merci à tout le monde.
Merci à vous. Entretien avec Aimé Césaire est paru aux éditions Hervé Chopin. Bonne journée à vous en Martinique avec 28-29 degrés.
Marie-Josée. Ouais, on essaiera de souffrir sous le soleil.
À bientôt. À suivre le philosophe Charles Pépin pour un essai sur les rencontres que nous faisons dans notre vie. Enfin, quand on peut. Avant cela, voici le nouveau titre du premier album magistral de Zed Youn Pavarotti. Dans la librairie francophone.
Liquide en vitesse, je le ferai comme misère. J'ai grillé d'envie qu'on m'en enlève. Y'a pas de mystère, non, je suis dans le ministère. À crever d'envie, on s'en remet. Regarde, y'a pas d'horreur, mon amour. Ce que je veux n'est que voler lors d'amour. Toute la journée, je cause pas, j'en rajoute. Allez, ciao, voilà, prends ma bouche. Ramène-moi le chiffre, je veux pas d'autre course. Grand retour, prends l'air. Faut les deux sentir pour nous rendre fous. Grand retour, prends l'air. Là, t'avais pris mon nom. Où j'avais pris mon nom. Oh, fallait aller, oh, fallait.
Zed Youn Pavarotti avec des larmes.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Queyrade.
Bonjour Charles Pépin.
Bonjour.
Vous publiez La Rencontre, une philosophie aux éditions Alary. Vous en faites beaucoup des rencontres en ce moment, vous ?
Un peu moins que d'habitude, et j'en souffre beaucoup, mais justement, comme ça, on mesure de quoi on est privé.
Ouais. Alors vous dites comme ça qu'on a dû réinventer nos relations aux autres pour ne pas trop rompre les liens pendant ces confinements. Ça fonctionne ou pas ?
Alors c'est un pis-aller, mais l'essentiel c'est d'être tout le temps en train de comprendre que la vraie vie d'un animal humain, c'est une vie passée à rencontrer d'autres que soi, d'autres visions, d'autres cultures. Alors il y a aussi des œuvres d'art, il y a aussi les paysages, hein, il n'y a pas que les êtres humains. Ce qui compte c'est de sortir de soi d'une manière ou d'une autre, et effectivement ma thèse c'est que même si on est un peu coincé chez soi en ce moment, on peut quand même sortir de soi en s'ouvrant à d'autres...
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut se préparer à accueillir l'imprévu, dites-vous.
Voilà, ce qui est compliqué parce que on aime bien prévoir, et d'ailleurs on est dans une civilisation de la prévision, de l'anticipation, de la gestion. Or souvent la rencontre, la vraie rencontre, que ce soit celle d'un livre ou celle d'un être humain ou d'une autre culture ou même d'un animal d'ailleurs, c'est une rencontre de l'imprévu, et pour ça il faut se mettre en capacité d'accueillir l'imprévu, en disponibilité, et c'est pas non plus si facile que ça.
Donc ça veut dire que si on ne fait pas l'effort, on se condamne à la solitude, on est responsable de sa solitude, Charles Pépin ?
Oui, je crois, mais attention, c'est pas simplement un effort, parce que dans l'effort, il y a un truc volontariste, mais c'est aussi une situation d'ouverture et d'éveil et d'accueil qui relève pas de l'effort. Je pense qu'il y a les deux qui sont importantes, qui sont deux conditions de la rencontre. D'abord, en effet, quelque chose qui est un effort, une volonté, je me fais un peu violence, et puis après, presque le contraire, comme une sorte de double mouvement dialectique. Après, j'observe, j'attends, ou je n'attends plus, je suis là, et je suis pas en train de faire un effort. Et c'est le fait d'alterner les deux attitudes, finalement, une attitude, on va dire, d'insistance volontaire, et une attitude d'observation relâchée, c'est ça qui permet peut-être de faire les belles rencontres.
Alors, vous évoquez aussi les sites de rencontres, ou les applications qui favorisent, comme ça, des contacts sexuels. Vous êtes très bienveillant sur le sujet, vous dites un premier pas pour sortir de soi.
Oui, alors en fait, je suis bienveillant parce que il vaut mieux un mauvais début que pas de début du tout. C'est exactement comme quand quelqu'un vous dit, alors qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Là, c'est un mauvais début, il va vous mettre une étiquette sur le front, il va vous réduire à une fonction sociale, ça commence mal. Mais ça commence quand même. Et moi, je pense que la vie souvent se rattrape, elle est là, elle est présente. Alors peut-être que c'est pas un très bon début d'être dans un consumérisme sexuel, d'être un peu compulsif, mais il y a plein de belles rencontres qui quand même fleurissent malgré tout. Parce que voilà, il y a un moment, il faut être quand même curieux aussi de l'autre. Et c'est cette curiosité pour le monde de l'autre.
Et quel que soit l'autre d'ailleurs, hein, parce que vous le dites très justement ça, Charles Pépin, que nous sommes dépendants des autres. Et une rencontre génère de l'affect, de l'amour, une libido, directe ou indirecte d'ailleurs. En fait, rencontrer quelqu'un nous excite. Et ce n'est pas forcément dans une perspective sexuelle.
Bah évidemment, c'est bien sûr que non. Il y a plein de perspectives. Mais quand vous dites que nous sommes dépendants, eh bien justement, dans la mauvaise éducation qu'on reçoit, il y a ce fantasme d'indépendance. Il faudrait être indépendant. Et ça n'a aucun sens. Un animal humain, il est dépendant déjà dans les premières années de sa vie pour sa survie. Et puis, il est dépendant des autres pour comprendre, pour être éduqué. Et donc, finalement, il s'agit d'apprendre à faire de cette dépendance le terreau d'une belle liberté. Et alors, on peut être autonome, mais on sera toujours dépendant. Faut pas confondre l'indépendance, qui à mon avis n'est pas à rechercher, de l'autonomie de pensée qui bien sûr est à viser.
Il y a les grandes rencontres de nos vies. On parlait tout à l'heure d'Aimé Césaire et de son fidèle collaborateur Pierre Aliker. Vous en citez plein, vous, dans ce livre. David Bowie et Lou Reed, Albert Camus et Maria Cazares, Éluard et Picasso, les papes Benoît XVI et François aussi. En fait, qu'elles soient amoureuses, professionnelles ou amicales, les rencontres nous changent profondément.
Pour moi, c'est ça le vrai critère. Il y a d'autres critères qui sont trompeurs. Est-ce que je suis troublé ? Est-ce que je suis curieux ? Est-ce que j'ai envie d'y aller ? Parfois, on a tout ça, et puis finalement, il se passe pas grand-chose, et la grande rencontre ne fait pas de petit. Alors que le vrai signe, c'est ce que vous avez dit, c'est est-ce que j'ai changé ? Est-ce que je me suis ouvert à des dimensions de moi-même, soit que j'ignorais, soit que dont je sentais la présence, mais qui avait besoin de ce contact avec l'autre pour se révéler. Et moi, je suis hegelien en ce sens, à savoir montre-moi ce que la rencontre a produit en toi comme modification objective, et je te dirai si c'est une vraie rencontre.
Rencontrer quelqu'un, c'est être bousculé, troublé. Quelque chose se produit que nous n'avons pas choisi, qui nous prend par surprise. C'est le choc de la rencontre, c'est ce que vous écrivez. On va voir nos libraires ?
Avec plaisir.
Allez, on commence par qui ? La Belgique ou le Canada ?
Le Canada.
Le Canada. Katia Courtois, c'est à vous.
Oui, alors, enchantée Charles Pépin.
Bonjour.
Alors, oui, bien sûr, j'ai aimé vos réflexions autour de la rencontre. Ben oui, c'est ça. Moi, franchement, c'est l'aisance avec laquelle vous mettez en lumière vos idées qui m'a fascinée. Car pour y arriver, vous réussissez à faire se côtoyer, entre autres, Sartre, Emmanuel Carrère, Picasso, Hegel et Mick Jagger. Et ça marche, tout se tient. En refermant votre livre, on a soif de culture et de toutes ces rencontres possibles.
Bien. Déborah Damblan pour la Belgique. Quel est votre point de vue ?
Ah ben oui.
Ah ben oui.
Eh ben je suis plus que d'accord, plus que d'accord Emmanuel, oui. Parce que cette fois encore, Monsieur Pépin, ben vous avez fait mouche. Vous nous aidez vraiment à donner aux rencontres qui ont fait notre vie leur juste importance, ben c'est vraiment, c'est essentiel. Et puis vous les mettez dans la lignée de toutes celles que vous citez, ça c'est vraiment un plaisir, un honneur, et vous nous donnez envie aussi de les retrouver, et ça c'est du bonheur en perspective. Alors moi j'ai juste envie de vous dire, mais très très sincèrement, merci pour la belle rencontre.
Eh ben dis donc. Ouais, marche,
c'est moi qui vous dis merci pour ces belles lectures. Et on entend dans votre émotion, enfin votre façon de lire le livre, que quand Martin Buber écrit que la vraie vie est rencontre, c'est très intéressant. Ça ne veut pas dire que la rencontre est simplement intéressante ou qu'elle est importante. Elle est le cœur d'une vie vraiment humaine.
Et, oui, oui.
Voilà. Et encore une fois, j'insiste bien, moi j'ai une approche transversale. Ça peut être la rencontre d'un paysage, d'un œuvre, d'un amour, d'un ami, mais aussi d'un chat, par exemple.
Oui, c'est ça. Il faut aller vers l'autre, quel qu'il soit.
Et le paradoxe, c'est qu'il faut aller vers ce qui n'est pas soi.
Oui.
Mais c'est la seule manière de savoir un peu ce qu'on peut devenir soi-même.
Citer France Gall et ce titre deux fois Charles Pépin. David Bowie aussi en long et en large. Je me demande si vous n'êtes pas un peu fan de ces deux artistes quelque part.
Oui, et d'ailleurs ce qui est très beau dans toute la biographie de Bowie, c'est que il est, pour lui la rencontre c'est vraiment le cœur d'une existence.
Et, oui.
Et il a son talent au fond est autant à l'intérieur de lui que dans la qualité des relations qu'il est capable de déployer avec les autres. Alors c'est pas Lou Reed ou Iggy Pop qui vont me contredire, eux qui ont été au fond sauvés en vérité par la rencontre avec Bowie. Et quand vous chantez Walk on the Wild Side ou Satellite of Love de Lou Reed, ou quand vous chantez Passengers de Iggy Pop, eh bien vous devez savoir qu'il n'y aurait jamais eu ces chansons si un certain soir Lou Reed et Iggy Pop étaient restés au fond de leur canapé au lieu de sortir de chez eux pour rencontrer David Bowie.
J'ai tellement fermé les yeux, j'ai tellement rêvé que j'y suis arrivé, c'est ce que chante France Gall derrière nous. Faut-il être un rêveur pour favoriser les rencontres, Charles
Alors,
Pépin ?
Ça, c'est une question compliquée. Parce qu'il y a un moment où la rencontre, elle va être produite par le fait que j'arrête de rêver et que j'y vais.
Ouais.
Je me fais violence et je sors de l'imaginaire pour entrer dans le réel. Mais en effet, eh bien, cette rencontre peut être préparée par la projection, le désir, l'attente, l'imaginaire. Mmh. Évidemment, ce que chante France Gall.
Ouais.
Mais le vrai moment de la rencontre, c'est quand le réel vient balayer les représentations, quand au fond, le réel est plus fort. Je prends un exemple
par rapport
concret.
À ce qu'on idéalise.
Exactement.
Ouais.
Parce que c'est bien d'idéaliser,
oui.
Mais c'est bien comme préparation. Le réel, c'est plus intéressant. Par exemple, on vous a dit, oui, alors Rothko, c'est la mystique, c'est l'absolu, c'est l'infini, et vous avez toutes ces idées.
Mm-hmm.
Et puis un jour, vous rencontrez une toile de Rothko, et vous vous rendez compte que la réalité, elle est plus puissante que tout ce qu'on vous en a dit. Même si, bien sûr, tout ce qu'on vous en a dit a fait office de préparation.
Donc il faut se préparer, mais pas trop attendre de l'autre. Parce que si on attend trop de l'autre, on peut être très déçu.
Oui, et puis surtout, si on attend trop, on va rater la véritable rencontre.
Ouais.
Parce qu'on va être dans la comparaison de ce qui se passe au présent et de ce qu'on attendait au passé. Alors que la vraie rencontre, elle est toujours ici et maintenant. Donc il faut avoir des attentes, c'est vrai. Mais il faut être capable ensuite d'avoir un rapport relâché à ces attentes pour au fond accueillir l'inattendu.
Oui, dépasser ses préjugés, qu'ils soient physiques ou moraux.
Évidemment, ouais.
Il y a des belles réflexions sur l'amitié aussi, Charles, et cet amour très singulier entre deux amis. Rien que par sa présence, l'ami intime permet d'éprouver la douceur de vivre, même dans les moments les plus difficiles, dites-vous. Et vous racontez qu'on peut rester silencieux, sans gêne, avec un vrai ami.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est une des preuves de l'intensité de l'amitié, ça c'est un bon test qu'on peut faire.
Ouais, c'est ça, et puis ce silence fait que l'ami, la belle relation d'amitié, au fond, nous autorise à être nous-mêmes, enfin, on a arrête de jouer, on tombe le masque, on pourrait dire, ce qui est une vraie condition de la rencontre.
On se met à nu, quelque part.
Ouais, et le philosophe Giorgio Agamben, c'est lui qui définit l'ami comme celui qui t'apporte la douceur de vivre. Et c'est là qu'on comprend que plus la vie est dure, plus on a besoin de cette douceur-là.
Sans rencontrer les autres, impossible de devenir soi. Merci beaucoup Charles Pépin.
Merci pour votre invitation.
Merci à vous. La rencontre, une philosophie, est parue chez Alary Éditions. Voici la chronique de nos libraires.
La librairie francophone.
Avec les coups de gueule et les coups de cœur. Comme d'habitude, un coup de cœur en Suisse, Dominique Bressou.
Oui, alors un gros coup de cœur pour un livre pour enfants qui s'appelle Migrants de Issa Watanabe. Vous savez que, en fait, pour les enfants, les images infligées au hasard des reportages ou des nouvelles à la télévision, ça ne fait souvent que les choquer, voire les traumatiser, sans qu'il y ait aucune compréhension de la situation. Et dans ce livre, à l'esthétique absolument superbe, ne mettant en scène que des animaux dont l'anthropomorphisme est plus parlant que de longs discours, ça permettra aux adultes d'expliquer, en fait, si tant est qu'on le puisse, les douleurs, le courage et les dangers ressentis
d'accord.
par les migrants.
Migrants.
C'est magnifique.
C'est aux éditions La Joie de lire. Merci
voilà.
Dominique.
Merci.
Un coup de gueule en France, Sophie Todescato.
Oui, c'est un coup de gueule qui concerne un service pas très connu que propose le libraire qui s'appelle l'IAD. Alors qu'est-ce que c'est IAD ? Ça veut dire imprimé à la demande et ça concerne des ouvrages un peu anciens pour lesquels l'éditeur n'a plus de stock et qu'il va imprimer qu'en un seul exemplaire vraiment pour vous.
Oui.
Alors c'est bien pratique, c'est vertueux, ça fait travailler le libraire, on est très content de pouvoir le proposer, sauf que depuis quelques semaines ça patine, les délais sont devenus complètement imprévisibles. Alors peut-être que les distributeurs jugent que c'est se donner beaucoup de peine pour pas grand-chose, mais c'est quand même bien dommage.
Oui, vous avez raison, effectivement, c'est un joli service. Au Canada, un coup de cœur du côté des beaux livres, Katia Courteau.
Oui, quel beau livre. Alors, il s'agit d'Empreintes de Guillaume Baudouin aux éditions Parfums d'encre. Ça me rappelle les propos de Charles Pépin parce qu'on part à la rencontre d'un ailleurs. C'est un récit de voyage magnifique qui nous fait accompagner le photographe dans une vingtaine de pays. Il y a des photos admirables, des paysages, des portraits réalisés au fil de ces rencontres. Et il y a des réflexions anthropologiques, écologiques, mais c'est la question humaniste qui est au cœur de l'ouvrage. C'est de toute beauté.
Empreintes aux éditions Parfum d'encre, vous avez traumatisé nos libraires avec vos rencontres, vous, hein, Charles.
C'est le choc.
C'est le choc.
Est toujours il n'est pas uniquement agréable, autrement ce ne serait pas intéressant.
Mais si, c'est agréable, là, tout va bien.
C'est pas uniquement agréable, on est troublé, quoi.
Oui, on est troublé. Bon, allez, on finit avec un coup de gueule. Elle est troublée en Belgique, Déborah Damblon.
Oui, elle est surtout très, très, très triste et contrariée, Emmanuel. Alors, c'est un coup de gueule contre l'adversité, puis un énorme coup de soutien aux éditions Weyrich, dont l'entrepôt a brûlé et emporté tous les livres. Voilà, en quelques heures, c'est un éditeur courageux, un éditeur éclectique, dont le catalogue s'étend des beaux livres sur l'Ardenne aux romans. Ils ont reçu le recel cette année, et ils ont tout vu partir en fumée. Alors, moi, je leur souhaite tout le courage du monde, et puis je suggère, on attend qu'ils réagissent. Imprime. Et puis, s'il vous plaît, on commande en masse.
On commande en masse et toutes nos pensées, effectivement, pour les éditions Weyrich. Merci beaucoup, Déborah. Dans un instant, l'auteur suisse engagé Daniel Deroulet autour d'un épisode politique effarant dans le Jura. Voici Serge Gainsbourg, né le 2 avril 1928, qui aurait eu 93 ans ce week-end, dans le meilleur des cas. On voulait célébrer sa naissance et non sa mort dans la librairie francophone. Le voici sur scène, Gainsbourg.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'armée monstre de Powells, vint une vision dans l'eau de Cels. Tandis que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or, le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est beauté. C'est comme un calice à sa beauté. elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guérin dans les cheveux. On entendait les clochettes d'argent de ses poignets agitant ses grelots où elle avança et prononça ce mot Améria.
C'était Serge Gainsbourg avec Initial BB dans une version concert en 1985 au Casino de Paris.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Bonjour Daniel Deroulet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis nos studios de la RTS en Suisse. Vous publiez L'Oiselier, qui raconte en substance la création du canton du Jura avec un groupe politique, le groupe Bélier, qui va militer par la force pour la création du Jura. Pourquoi veulent-ils ce canton ?
Le canton faisait partie du canton de Berne, qui était un canton dans lequel on parlait allemand. Et il avait été donné au canton de Berne en 1815, donc c'est une vieille histoire, comme une espèce de colonie qu'on avait donnée aux Bernois. Et donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les gens commençaient à trouver que s'ils pourraient faire un canton pour eux, dans lequel ils seraient autonomes et ils pourraient s'administrer.
Alors, à l'époque, ils fréquentent aussi les Corses et les Québécois, qui revendiquent aussi leur autonomie.
Oui, on peut dire que c'est l'époque où tout le monde est contemporain d'Aimé Césaire, c'est-à-dire avec l'idée d'une grande autonomie et peut-être que la parité suffit pas et qu'il faut l'égalité. Voilà, je trouvais ça très beau et chiche, ils y vont en avant.
Ouais, chiche, comme disait Aimé Césaire tout à l'heure ouais, dans le son d'archives. Vous dites qu'il proclamait qu'il faisait de la politique, mais pas dans les urnes, pas à la Suisse où il faut toujours tergiverser.
Oui, c'est vrai qu'en Suisse, on a cette habitude qu'on pense que, puisqu'on a un système démocratique intéressant par rapport aux votations, ce qu'on appelle nos votations, ça résoudrait tout. Ben non, ça résout pas tout. Et là, la preuve, ça n'a rien résolu. Et donc, ça a duré. Et ça n'est même pas vraiment terminé aujourd'hui, d'une certaine manière.
C'est-à-dire ?
Eh bien, dernièrement, il y a encore une commune qui a changé de canton, dont les habitants ont décidé de changer de canton, d'aller du côté francophone, alors qu'ils étaient du côté à majorité germanophone.
D'accord. Donc il y a des mouvements comme ça, et il y a des zones d'ombre aussi qui ont marqué la région jurassienne juste avant son indépendance avec des meurtres, plus ou moins déguisés. En 1977, un grand patron allemand, un jeune soldat bernois aussi, mystérieusement disparu, qu'on retrouve mort, un caporal de police, et à tout cela se mêlent des terroristes allemands. On n'y comprend rien, mais c'est l'enquête de votre personnage qui va essayer de démêler tout ça. C'est vrai que c'est la pagaille, Daniel Deroulet, cette histoire.
Oui, tout ce que vous avez raconté là, c'est-à-dire en peu de mois, il y a eu deux soi-disant suicides, il y a eu deux meurtres, et chaque fois on disait, oui, ben c'est un qui s'est suicidé, ça c'est un policier qui en a tué un autre, ça c'est simplement une histoire de terroriste, et donc on voulait pas, surtout pas, mettre en rapport ces faits. Et jusqu'à aujourd'hui, on considère que les enquêtes ont été faites et circulées, il n'y a rien à voir. Et je trouvais qu'avec le roman, qui pouvait essayer de tisser des liens entre des faits qui, visiblement, ont des coïncidences bizarres.
Oui, sauf que c'est un roman qui est fondé sur des événements réels. Les personnages, ils ont existé, tous ?
Oui, les personnages ont existé. Il y a même une histoire d'amour entre la fille d'un conseiller fédéral, donc de celui qui est au pouvoir, de l'homme du pouvoir.
Qui est le président de la Confédération.
Qui est le président.
Ouais. Et l'enquêteur.
Et l'enquêteur, qui est un journaliste qui a existé, oui. Mais, disons, il est nécessaire quand même de faire une certaine part du roman, et j'essaie d'expliquer chaque fois ce qui est romancé et ce qui appartient à la réalité. Mais et cette réalité, elle est lourde. Hein.
Oui, parce que quand vous dites que le président de la Confédération suisse de l'époque ne veut pas justement brusquer ceux qui sont en faveur d'un canton jurassien, et que du coup il dissimule des choses, c'est vrai ça ?
Oui, c'est évident qu'il est intervenu plusieurs fois, y compris au niveau de la justice. Il faut vous rendre compte que c'était une période dans laquelle les actes du Bélier et des autonomistes étaient très très violents. Ils ont occupé l'ambassade de Suisse à Paris en se défendant contre les forces de l'ordre. Ils ont ensuite occupé...
À Bruxelles aussi.
Bruxelles, voilà. Donc, et tout ça, et si vous voulez, c'était pas tout à fait suisse. Alors, le président de la Confédération, il disait « Non, non, restons entre nous, il s'est rien passé. » Surtout qu'il devait faire approuver ce nouveau canton et par l'ensemble de la population en Suisse, et que si on avait dit oui, mais il y a des gens qui se tuent entre eux dans ce canton, etc., ben jamais il aurait passé. Or, voilà, la raison d'État est passée avant la vérité.
Oui, c'est ce que vous écrivez. Vous dites il veut accélérer les procédures, garantir l'existence du futur canton du Jura. La Suisse aura donc un canton de plus construit sur des silences fédéraux et des complicités locales jusque dans les tribunaux. Bon, comme d'habitude, Daniel, vous y allez franco, hein. Ça, c'est votre marque de fabrique.
Moi, il me semble que les romanciers, ils ont une liberté de parole que peut-être les journalistes en moins, quoi. Et donc, j'en profite. Merci.
Bon, bah, écoutez, en tout cas, ici, on a la liberté totale de parole. La preuve avec les libraires qui ont lu votre livre. On va voir ce qu'ils en ont pensé. On commence par la Belgique. Avec vous, Déborah Damblon.
Alors, j'ai trouvé que la sensation de plonger dans votre roman était vraiment étrange. Vous voyez, comme qu'on retrouve un vieux journal un peu jauni, avec des nouvelles qui ne sont plus nouvelles depuis longtemps. Et vous avez parfaitement rendu le suranné de ces années qui ne sont finalement plus si proches. Alors, on entre dans l'histoire comme dans des souvenirs de vacances un peu flous. Et ça, c'était vraiment une sensation très intéressante, j'ai trouvé. Après, l'histoire elle-même, elle m'a pas plus passionnée que ça, mais il faut dire que je n'ai pas non plus l'ombre d'un souvenir des événements qui vous ont inspiré.
Eh oui, c'est ça le problème, hein, Daniel Deroulé, parce qu'il faut connaître un peu l'histoire suisse pour s'y retrouver parfois.
Mais vous en faites pas, il y a plein de lecteurs suisses qui s'y sont retrouvés.
Ah bah oui.
Et en pensant qu'ils étaient d'un côté ou de l'autre et en m'attribuant des choses qui sont même pas dans le roman. Non, non, c'est vrai que j'ai pas pensé qu'il y aurait un jour un lecteur belge de mon roman.
Eh ben, vous saviez. Bah si.
Ben voilà, je suis très content. Merci.
Pour anticiper maintenant, Daniel. La France, Sophie Todescato, vous y êtes-vous retrouvée, vous ?
Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée. On est loin du cliché habituel d'une Suisse bien paisible où on respire le bon air pur. Mais justement, j'ai bien aimé comment l'écriture raconte ça, avec une pointe de distance dans la narration, de manière vraiment très millimétrée, très précise, aussi limpide au fond que cette histoire, elle est trouble et opaque.
Oui, c'est trouble et opaque. Et il y a des personnages, on l'a dit, qui ont existé. Il y a Ahmez, par exemple, le fameux mystérieux patron d'un hôtel suisse qui a une Ford Mustang rouge, qui fait de la contrebande de viande et qui devait peut-être aussi servir de refuge ou de repère pour ces militants extrémistes du groupe Bélier. Il a existé aussi ce personnage, la Ford Mustang aussi.
Oui, absolument. Et Ahmez, on l'a retrouvé. On l'a retrouvé sur une autoroute française à 200 km de la frontière suisse et on a dit qu'il s'était suicidé sur l'aire de repos. Alors il se trouve que moi je suis allé regarder à quoi ça ressemblait et ça ressemble beaucoup à un endroit où on peut faire un très beau guet-apens, c'est-à-dire que c'est un endroit où par-dessus l'autoroute il y a un pont et on peut descendre avec un escalier donc, et ensuite on repart, voilà, ni vu ni connu. Et moi je doute beaucoup qu'il se soit suicidé, mais c'était un de plus et on l'avait jamais mis en rapport avec les autres suicides.
Voilà. Vous écrivez aussi dans la préface « Trop souvent, le pays où je suis né se donne en modèle, prétend savoir régler les conflits politiques par consentement mutuel et sans violence. Pourtant, sur les champs de bataille, les rois et les princes engageaient des mercenaires suisses parce qu'ils étaient les plus cruels. »
Oui, il y a eu 2 millions de Suisses qui ont été vendus par les aristocrates helvétiques pour se faire de l'argent. Et il y en a un quart qui ne sont pas rentrés et il y en a beaucoup qui sont morts sur le champ de bataille, non seulement contre l'ennemi, mais entre eux. C'est-à-dire que les rois prenaient des Suisses d'un côté et de l'autre et on les faisait se bagarrer l'un contre l'autre, se tuer, s'entretuer. Et tout ça avec des aristocrates qui restaient chez eux et qui recevaient la
compagnie. Ouais. Et un peu plus loin, vous dites « secret des affaires ou secret d'État ». Voilà pourquoi la littérature helvétique a tant de mal à se confronter à la politique. Ses maîtres ou ses sponsors, lui soufflent « circuler, il n'y a rien à voir, contentez-vous de nous parler de vos états d'âme quotidiens ».
Oui, c'est la longue tradition d'Amiel, ça. C'est le fait que, voilà, on pense que la Suisse, il s'est rien passé. Moi, j'essaie de dire que, au contraire, c'est un pays comme un autre. Ouais. C'est un pays qui a une histoire et que cette histoire, on peut pas l'effacer comme ça facilement. Et les écrivains suisses engagés ont toujours annoncé ce qu'allait se passer par la Suisse. C'est-à-dire que quand il y a eu l'histoire des fonds juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est les écrivains qui les premiers, notamment Frisch, Dürrenmatt et quelques autres, qui se sont investis pour dire, à travers des romans, voilà ce qui s'est passé pendant la guerre, on leur disait, circulez, il n'y a rien à voir, jusqu'à ce que, dans les années 90, la vérité éclate et on fasse des commissions historiques.
Oui, c'est ça.
Sauf qu'ils n'avaient pas tort, quoi.
Oui, vous avez fait ça, vous aussi, Daniel. Dans votre œuvre, toute votre œuvre, elle est jalonnée comme ça par des vérités qu'on a essayé de dissimuler.
Bah, je pense que la littérature, elle a une fonction de dissimulation, ou en tout cas de mise en valeur de certaines relations que sans cela on ne voit pas. Et que c'est aussi parce qu'on a le privilège d'avoir du recul en tant qu'auteur. On n'est pas pris par l'actualité immédiate. On a cette liberté de parole. Et donc, je pense qu'on a aussi un devoir de mémoire qui doit être rempli par... voilà, je ne dis pas qu'il faut faire que ça. J'admire d'autres types de littérature. Mais il se trouve que... Moi, quand j'ai commencé à écrire, c'est pas que j'avais ce genre de choses à raconter.
Merci beaucoup, Daniel de Roulet.
Merci à vous.
Merci d'être revenu dans la librairie francophone. L'Oiselier est paru aux éditions La Baconnière. À bientôt, Daniel.
À bientôt.
Et chaque semaine, nous donnons la parole aux bibliothécaires, quelque part dans la francophonie. Aujourd'hui, c'est la France qui est à l'honneur. On vous emmène en région parisienne, à Villejuif, pas très loin d'Orly, du célèbre aéroport. Bonjour, Cécile de Rodilly-Roussière.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes bibliothécaire à la médiathèque Elsa Triolet. Que voyez-vous, que peut-on voir par l'une des fenêtres de votre bibliothèque ?
Alors la médiathèque se trouve en plein centre-ville et je vois une place avec l'église Saint-Cyr-Sainte-Julie dont les horloges sont régulièrement en panne. Donc ne vous y fiez pas pour être à l'heure pour le couvre-feu.
Oui, il faut faire attention en ce moment. Allez, quel grand classique de la littérature avez-vous choisi, puisque c'est le principe de cette séquence, de parler des classiques de la littérature?
Alors j'ai choisi de vous parler du Grand Maulne, le célèbre roman d'Alain Fournier qui a été publié en 1913. C'est l'unique œuvre de cet auteur qui est mort au combat un an plus tard, au début de la Première Guerre mondiale. Le narrateur François y raconte comment son ami Augustin, dit le Grand Maulne, tombe éperdument amoureux d'une jeune fille, Yvonne de Galais, lors d'une mystérieuse et poétique fête dans un château en pleine campagne. Il n'a ensuite de cesse que de vouloir la retrouver. Le mélange de féerie et de poésie, la force des sentiments évoqués, l'intemporalité du récit ainsi que la douce mélancolie qui en émane sont pour moi une source de plaisir que j'ai toujours de la joie à retrouver. C'est une histoire assez triste, alors que je ne le suis pas du tout. Rien que de vous en parler, j'ai déjà envie de le relire à nouveau.
Bon, ben on vous laisse à vos lectures. Merci beaucoup Cécile. Le Grand Maulne, paru en 1913, donc d'Alain Fournier. Merci aussi à la médiathèque Elsa Triolet de Villejuif en France, où on écoute bien sûr la librairie francophone tous les samedis à 14h sur France Inter.
Absolument.
Absolument. À bientôt Cécile.
À bientôt Emmanuel.
On termine avec un titre numéro 1 dans un pays membre de l'OIF. Aujourd'hui, on écoute la chanteuse Lama Shreyef, qui est numéro 1 en ce moment au Liban. un extrait du nouveau titre de Lama Shreyef, numéro 1 en ce moment au Liban. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince et Pierre-Yves de Rolin à la technique. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Estelle Gap en France, Nicolas Julliard et Sophie Grécoutchou en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet, Elsa Pépin au Canada, Thierry Dupin était à la prog musicale. La semaine prochaine, Akhenaton du groupe IAM, la Libanaise Lamia Ziadeh, entre autres, et si tout va bien. On espère être là, fidèle au poste. À très bientôt. Bon week-end à tous. Et on quitte la multidiffusion pour se retrouver sur France Inter uniquement. N'oubliez pas la rediffusion à 1h du matin avec le bonus créole consacré à Aimé Césaire. Et je vous retrouve dimanche à midi sur TV5 Monde pour la version télé de la librairie francophone. Dans un instant, Daniel Fievé et son bivouac sur les traces des reines d'Égypte.